الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند ضعيف. Ici le hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi, il dit: ne discute pas ou ne te dispute pas avec ton frère et ne plaisante pas avec lui et ne lui fais pas une promesse que tu ne tiendrais pas. Donc le hadith ici, Ibn Hajar il dit qu'il est rapporté par une chaîne de transmission qui est faible. Mais ici, Abdullah al-Bassam il ramène le fait que Ibn Hajar lui-même dit qu'il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés dans la même, avec la même signification que ce hadith. Donc il dit dans les explications: الإسلام بتوجيهاته الرشيدة وتعاليمه الحكيمة يحث على الألفة والأخوة الإيمانية التي تجمع القلوب وتؤلف النفوس وتشرع الأسباب الجالبة للأخوة. Donc l'islam, avec ses orientations et ses sagesses et ses enseignements qui sont sages, invite à la fraternité et à l'entente entre les gens et entre les croyants. L'entente donc de la foi qui regroupe les cœurs et qui fait que les âmes s'entendent entre elles. Et donc aussi l'islam il va légiférer toutes les causes justement qui ramènent ce but qui est la fraternité et l'entente entre les musulmans. والمحبة والمودة في الله هو أساس الاجتماع والتعاون على البر والإحسان ونهى عما يسيء إلى الأخوة والألفة. Et l'amour en Allah Azza wa Jal, c'est la base de la réunion des gens et des musulmans, pardon. Et aussi le fait de s'aider dans le bien et dans la bienfaisance. Et Allah aussi a interdit tout ce qui peut nuire à la fraternité et à l'entente des musulmans. Al-Mumarat, donc quand il a dit ici la tumari akhak, que j'ai traduit par ne te dispute pas avec ton frère, il dit Al-Mumaratu hiya al-jidal wal-khusuma. Donc le Al-Mumarat, c'est le débat et la discussion et la dispute. التي قد يفعلها الإنسان مع جليسه ليظهر الخلل في كلامه أو العيب في فكرته. Donc c'est une genre de discussion que la personne fait avec la personne qui est assise avec lui pour montrer les erreurs qu'il y a dans ses paroles ou alors les mauvais côtés qu'il y a dans son idée. فهذا خلق ذميم. Donc ça c'est un mauvais comportement. ويسبب التنافر والتباغض بين الأصحاب والإخوان. Et c'est une cause d'éloignement et de haine entre les amis et les frères. والواجب بين الإخوان والحضور واحترام كل واحد منهم صاحبه. Et ce qui est obligatoire entre les gens qui s'assoient ensemble et les frères, c'est que chacun respecte l'autre. وإذا كان هناك نقاش وبحث مسألة فيكون بالتفاهم فيها وبحثها بأدب واحترام. Et si ils sont en train de débattre autour d'une mas'ala, c'est-à-dire autour d'une question, et ils discutent autour de cette question, alors il faut le faire avec tafahum, c'est-à-dire avec compréhension les uns envers les autres, et rechercher cette question avec politesse et avec respect les uns vers les autres. فَإِنْ وَجَدَ فِكْرَةَ صَاحِبِهِ جَيِّدَةً حَبَذَهَا وَقَبِلَهَا وَأَيَّدَهَا. Donc s'il trouve que l'idée de son frère est bonne, il doit l'accepter. وَإِنْ كَانَتْ خَاطِئَةً أَوْ فِيهَا أَخْطَأَ عَدَّلَهَا تَعْدِيلًا بِسِيَاسَةِ كَلَامٍ وَلُطْفِ مَدْخَلٍ لَا يُشْعِرُ فِيهِ بِالْعَيْبِ وَالتَّخْطِئَةِ. Et si il trouve que son frère a une mauvaise idée, une idée qui est fausse, c'est-à-dire une erreur, alors il essaye de le corriger avec des paroles sages et douces, et pas une parole qui lui fait ressentir son défaut et qui lui fait ressentir son erreur. Donc ça, comme on en a besoin nous aujourd'hui, parce que des fois tu vois des frères entre eux, ils discutent pour des discussions qui sont larges entre les ulama et ils se disputent. Ouais, pourquoi quand tu te relèves du recours, tu mets tes mains sur la poitrine, et l'autre il dit pourquoi toi tu les mets pas, et ils vont se disputer sur ça. Et ils discutent, ouais, mais le shir il a dit c'est telle preuve, l'autre il a dit c'est telle preuve. Subhanallah al-Azim, si des savants comme Ibn Baz al-Albani, rahimahumullah, ils ont réussi à diverger, tu crois que toi dans un débat avec ton copain, tu vas, mashallah, tu peux te permettre de critiquer une personne ou d'être violent envers lui parce qu'il a choisi une des deux idées. Et pareil pour plein de questions qui sont des simples questions de divergence dans le fiqh. et qui sont des questions où vraiment les textes y supportent l'un ou l'autre avis, et des questions où les grands savants d'Ahl Sunnah et même parfois les muhaqqiqin, c'est-à-dire les gens, les authentificateurs, eux-mêmes divergent sur ces questions, et tu vois les frères, ils se disputent sur ça et ils se mettent en colère, etc. Donc là, on ne parle pas des innovations. Les innovations, ce n'est pas un débat ou le suivi de la Sunna. Mais malheureusement, tu vois beaucoup de frères qui discutent autour de questions, et pour la plupart du temps, on n'a pas étudié la religion et on n'a pas fait l'effort, ne serait-ce que d'apprendre la langue arabe. Et après, on parle sur des questions comme celles que je viens de citer. Ou alors, est-ce que celui qui délaisse la prière, il est mécréant ? Alors tu vois, lui, il dit oui, l'autre, il dit non, et presque à la fin, ils vont se battre. Alors que l'opinion, elle est partagée entre les ulama depuis plus de 1000 ans, etc., etc. Et le conseil donc qu'on pourrait faire aux frères, c'est que si quelqu'un il est assis dans ce genre de discussion et il voit que les gens ils discutent sans suivre des règles précises, ça sert à rien de discuter. C'est-à-dire ça sert à rien de s'enfoncer et après tu vas pédaler dans la choucroute. Si tu parles avec des gens qui quand ils parlent, ils servent juste à défendre leur opinion, et tu vois aussi que leur opinion des fois elle peut être bonne, mais ils la répètent simplement parce que c'est l'opinion d'un tel chir et ils ne connaissent pas les arguments. Et toi peut-être tu as l'opinion opposée. On parle dans le fiqh, c'est-à-dire dans les choses où il peut y avoir des divergences. Alors il vaut mieux que tu arrêtes de parler avec eux. Si tu vois qu'ils ne savent pas suivre un manhaj, c'est-à-dire une voie à suivre dans le débat et dans l'argumentation, et qu'il te sort des arguments qui ne tiennent pas debout, même si à la fin son opinion elle est vraie, mais lui juste pour défendre l'opinion, il va te sortir tout un tas d'arguments. En fait lui il ferait mieux de dire, voilà moi j'ai entendu tel chir, il a dit ça, et moi je suis et c'est tout. Et l'opinion, elle m'a convaincu sans plus. L'argumentation, je la connais pas. Et les preuves, je les connais pas. S'il avait dit ça, il aurait été honnête. Mais des fois, tu vois, la personne, elle rentre dans ce genre de cas. C'est-à-dire, il imite un savant. Et il en a le droit. Et après, quand toi, tu imites un autre savant qui a peut-être une autre opinion et qui est tout aussi valeureux que ce savant, il se dispute avec toi. Comme s'il avait tout compris, alors qu'à la base, lui-même, il a simplement imité. Quand ce genre de discussion, elle arrive, et de toute façon, chez nous, dans 95% des cas, c'est ce genre de discussion-là, il vaut mieux arrêter la discussion. Parce qu'à la fin, ça mène à rien. Il n'y a pas de fruit derrière ce genre de discussion. C'est pas comme un étudiant en sciences religieuses qui discuterait avec quelqu'un qui n'aurait pas compris une question et qui cherche à comprendre. Ou alors avec un autre étudiant, et ils discutent, et chacun il est convaincu par des preuves, et chacun il sait comment on argumente dans le fiqh. Et donc ils vont discuter, et puis peut-être l'un des deux il va se soumettre à l'opinion de l'autre, parce qu'il va dire c'est vrai finalement, je trouve que t'as raison, je me suis trompé. Mais là, dans 95% des cas, nous, nos discussions à nous, c'est pas ça. C'est j'ai une opinion, si tu creuses un peu son opinion, il sait même pas pourquoi il l'a, et après il veut t'en convaincre, et après ça tourne à la dispute, et chacun y a le visage tout rouge, etc. Alors que quand tu reviens au savant, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani, ben tu trouves chacun des trois, il y a une des opinions sur lesquelles les personnes sont en train de se battre. Wa nas'alullah as-salam. Amma idha kana al-majlisu amman wa fihi al-milah wal-fakkahat wa akhta ahadun fi hikayah aw souq fakkaha aw tarfa fal-awla tarkuha idha la yatarattabu alayha shay. Il dit, mais quand c'est une assise ouverte et les gens y racontent des histoires, et raconte des plaisanteries par exemple, des histoires, c'est-à-dire qui réjouissent les personnes, pas des hadiths ou pas de la science, et ils peuvent se tromper dans une histoire et dans un récit, il dit ça sert à rien de le corriger, parce qu'il n'y a aucune conséquence à son récit, parce qu'il n'est pas en train de parler de règles religieuses, etc. Amma al-mizahu falyakun mizahan khafifan latifan bi adabin wa ihtiram wa la yatul wa la yathqulu ahad wa la yathqulu hatta yata'adda. Il dit quant à la plaisanterie, al-mizah, il faut que ce soit une plaisanterie légère et subtile, avec politesse et respect, et qu'elle soit pas trop longue, parce que des fois tu trouves une personne, elle plaisante avec une, l'autre il accepte pour la première, et l'autre il en rajoute, la deuxième fois il accepte, mais la troisième fois ça y est, tu vois il devient tout rouge et il en a marre. Donc subhanallah, c'est pour ça qu'il dit la plaisanterie, il faut pas qu'elle soit trop longue, parce que généralement au début tu l'acceptes, il t'a fait une plaisanterie une fois, deux fois, mais au bout d'un moment ça commence à être vexant et ça devient une atteinte à l'honneur de la personne. Donc il faut pas que la plaisanterie elle soit trop longue ou qu'elle soit trop lourde, à tel point que yata'adda, c'est-à-dire il commence à, ça devient une transgression envers la personne et elle cause la colère de la personne et elle cause la haine et l'inimité entre les gens. Et là encore, ben 95% de nos plaisanteries à nous, elles tombent dans ce genre de, dans cette catégorie-là que le shir est en train de citer. C'est-à-dire, tu vois des frères entre eux, et ils ont la barbe, machallah, etc. Et tu vois, par exemple, ils vont être assis à 5 ou 6, et ils vont prendre une tête de turc dans l'assise, et ils vont se moquer de lui, et ils vont faire des insinuations, soit parce qu'il n'est pas... Par exemple, eux, c'est des Marocains, lui, il est seul Algérien chez eux. Ou alors, eux, c'est tous des Parisiens, et lui, c'est le seul Belge. Ou alors, etc. Et tu les vois, et ça, c'est beaucoup, malheureusement, chez les frères. Tu vois, parce que lui, et ils en font la tête de Turc, et ils s'acharnent sur lui, avec des blagues, etc. Et lui, il ne sait plus quoi faire. Donc ça, ça rentre dans le fait de toucher à l'honneur du musulman, toucher à l'aspect sacré du musulman. Et ce matin, dans le Dars, et aussi dans le Dars de Kamel, on a entendu les textes qui parlent de l'aspect sacré, de l'honneur du musulman et de la personne du musulman.
أما الوعد فإنك لا تعد أخاك عدة تمنيه في قضائها.
Quant à la promesse, donc il ne faut pas promettre à une personone en lui faisant espérer que tu vas la remplir.
وترجيه في إنهائها ثم لا تفي له بذلك.
Et ensuite tu ne remplis pas cette promesse.
فإن هذا يضره من ناحية ويثير حقده عليك أيضا. فإما أن لا تعده وإلا فإذا وعدته فأوفي بوعدك.
Donc ça, ça va le nuire à cette personne qui espérait ce bien que tu lui as promis. Et aussi, ça va engendrer chez lui la haine envers toi. Donc soit tu ne lui fais pas de promesses, ou soit, si tu lui en fais, il faut les remplir.
تقدم الخلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد وأن أصح الأقوال وجوبه إذا أوقع الموعود في ورطة وضرر فإما أن يفي له بالوعد وإما أن يضمن له خسارته التي كانت بسبب وعده وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
Il dit donc, on a déjà cité dans des chapitres précédents la divergence des savants sur le statut du fait de remplir ses promesses. Donc certains ont dit c'est simplement conseillé, d'autres ont dit c'est obligatoire. Et Cheikh dit la parole la plus véridique, c'est que c'est obligatoire si le fait de ne pas remplir sa promesse crée une nuisance chez celui à qui tu as promis quelque chose. Et si après tu ne peux pas, donc soit tu remplis ta promesse originale, ou soit tu dois compenser la nuisance que tu lui as fait en ne tenant pas cette promesse. Et c'est la fatwa de Mujama' al-Fiqh al-Islami. Ça, c'est un ensemble de savants qui se réunissent pour discuter de certains sujets.
An Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف.
Il dit ce hadith, il y a deux caractéristiques qui ne se regroupent pas chez un croyant, l'avarice et le mauvais comportement. Et Ibn Hajar dit, donc ça c'est rapporté par al-Tirmidhi, et il y a de la faiblesse, ضعف, dans sa chaîne de transmission. Donc là, il rapporte comme quoi certains genres du hadith, ils l'ont authentifié, et ou d'autres hadiths qui sont un peu dans le même sens. En tout cas, on va quand même lire l'explication. Donc il dit «
الحديث الشريف يدل على أن المؤمن لا يجمع هاتين الخصلتين الذميمتين وهما البخل وسوء الخلق. »
Donc ce hadith montre qu'un croyant, une personne qui a la foi, ne regroupe pas ces deux comportements blâmables, qui sont l'avarice et le mauvais comportement.
ومفهوم الحديث أنهما قد يجتمعان في من حرم نعمة الإيمان فإنه قد يكون فيه البخل وسوء الخلق معا.
Et on peut comprendre aussi du hadith que ces deux caractéristiques peuvent se trouver chez une personne qui a été privée du bienfait de la foi. Et il peut être à la fois avare et avoir un mauvais comportement.
لأنه فقد الإيمان الذي ينهى صاحبه عن سيء الأخلاق كما يأمره بالجود والكرم.
Parce que cette personne a perdu la foi et a manqué la foi qui interdit à la personne le mauvais comportement. C'est-à-dire il ne porte pas cette foi qui lui aurait privé des mauvais comportements et qui lui aurait ordonné d'être généreux et d'être noble dans ses comportements.
Al-bukhlu ahsanu ma yu'arrafu bihi bi'annahu taqsiru bin nafaqat al-wajibat wa nafaqat al-mustahabbat wa 'adam at-tawsi'ati 'ala al-ahli wal-awlad wa at-taqsiru fi birri al-jar.
Donc il dit al-bukhl, l'avarice, sa meilleure définition c'est de dire que c'est le fait de manquer aux dépenses obligatoires et aux dépenses recommandées. et le fait de ne pas être large dans tes dépenses envers ta famille et tes enfants et les voisins et les proches et les faibles.
جاء ذم البخيل والبخل في كثير من نصوص الكتاب والسنة قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.
Et le blâme de l'avare et de l'avarice est nombreux dans les textes du Coran et de la Sunna, comme dans le verset qui dit ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice.
وقال تعالى ولا يحض على طعام المسكين.
Et dans le verset qui dit et cette personne, donc dans les caractéristiques des gens de l'enfer, et cette personne n'encourageait pas à nourrir le pauvre.
وقال تعالى عن أهل النار ولم نكن نطعم المسكين.
Et Allah raconte les gens du feu quand ils disent et nous ne donnions pas à manger aux pauvres.
وقال تعالى وأما من بخل واستغنى.
Et le verset qui dit, et quant à celui qui est avare et qui se voit riche.
وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
Et le verset qui dit, celui qui est protégé de sa propre avarice, voilà les gens qui réussissent.
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
Et le hadith dans Sahih Muslim nous dit « Évitez l'avarice, car l'avarice a détruit les gens qui étaient avant vous. Elle les a amenés à verser leur sang et à rendre licite leurs interdits. »
Al-bukhlu madhmoumun shar'an wa 'aqlan wa 'urfan.
Il dit aussi « L'avarice est blâmée dans la religion, dans la raison humaine et dans la coutume des gens. »
فَهُوَ إِمْسَاكٌ عَنِ الْوَاجِبَاتِ فَيُحَصِّلُ صَاحِبَهُ الْإِثْمِ.
Et l'avarice fait que tu te retiennes dans les choses obligatoires et donc entraîne des péchés.
وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْفَضَائِلِ وَالْمُرُوءَاتِ فَيُحَصِّلُ صَاحِبَهُ الْمَذَمَّةَ وَالْعَارِ.
Et aussi elle fait que tu te retiens des comportements, des nobles comportements et des bonnes traditions.
الْمُرُوءَاتِ, ce qui est voulu par الْمُرُوءَاتِ, c'est les comportements qu'un homme il doit avoir dans sa société,
c'est-à-dire là, on pourrait dire la dignité ou le bon comportement. Et donc elle entraîne le blâme chez la personne.
وضد ذلك القيام بالنفقات الواجبة والنفقات التي تجلب حمدا وأجرا.
Et à l'inverse de ça, donc le fait de dépenser des dépenses obligatoires et les dépenses qui ramènent à la personne la louange et la récompense.
أما سوء الخلق فضده حسن الخلق من حسن العشرة ولين الجانب والحلم والعفو والسماح والصبر والرحمة والشفقة والإحسان والبر.
Et donc, à l'inverse du mauvais comportement, il y a le bon comportement qui consiste à être de bonne fréquentation et à être doux envers ses fréquentations et à être clément et à pardonner et à excuser et à patienter et la miséricorde, la pitié, la bienfaisance.
والآيات والأحاديث في ذم سوء الخلق ومدح حسن الخلق كثيرة جدا ويكفي منها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
Et les versets et les hadiths qui parlent du et qui blâment le mauvais comportement et qui louent le bon comportement sont nombreux. Et il dit, il suffit le verset qui dit pardonne et ordonne la bienfaisance et détourne-toi des ignorants. Ça c'est le verset, pour revenir à une meilleure traduction, c'est le verset 199 dans la sourate 7.
Wa qawluhu wa la tastawi hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan.
Et le verset qui dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales, repousse de la meilleure façon, c'est-à-dire repousse le mal de la meilleure façon.
Wa ja'a fi at-Tirmidhi an Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah yubghidu al-fahisha al-badi. Wa ja'a fi Abi Dawud an Aisha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
Et dans les sunan, il est rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah déteste la personne vulgaire et basse, c'est-à-dire la personne qui dont les comportements sont la bassesse. Et dans un autre hadith, il dit صلى الله عليه وسلم le croyant atteint par son bon comportement les degrés des jeûneurs et de ceux qui se lèvent la nuit pour prier. On passe au hadith suivant, il dit
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم.
أخرجه مسلم. Le hadith nous dit quand deux personnes s'insultent, alors la faute revient au premier qui a commencé, tant que la victime ne transgresse pas. C'est-à-dire tant que celui qui est insulté ne dépasse pas les limites. Ça c'est dans Sahih Muslim. Et donc il dit dans l'explication, As-sibabu fusuqun lima yasturu fihi min al-kalam al-fahish wal-lafz al-badi. Donc l'insulte et le fait de s'insulter, c'est du fusuq, c'est-à-dire c'est sortir de l'obéissance d'Allah, parce qu'il engendre des paroles vulgaires et des paroles basses. Wa qad yajurru al-fusuq ila ma huwa a'zamu minhu min safki ad-dima wa itharati al-fitan. Et cette désobéissance peut ramener des grandes conséquences, comme le fait que de faire couler le sang et de causer des troubles entre les gens. وَأَقَلُّ مَا فِيهِ إِشْعَالُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Et au minimum, la moindre conséquence qu'il a, au moins, c'est de ramener l'inimité et la haine entre les musulmans. وَلِذَا كَانَ مُحَرَّمًا فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الْفَاحِشَ الْبَذِي. C'est pour ça que c'est haram, c'est interdit, et Allah déteste la personne vulgaire. وَمَنْ يَعْدُدِي عَلَيْهِ بِالسِّبَابِ فَلَهُ مُجَازَاتُ سَبِّي بِمِثْلِ سَبِّهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُمْ بِهِ. Il dit, celui qui est victime de l'insulte peut répondre à une insulte semblable sans dépasser. Car Allah dit, et lorsque vous êtes عَاقَبْتُمْ, c'est-à-dire quand on vous fait du mal, alors faites du mal comme on vous a fait du mal, c'est-à-dire au même degré, de la même façon. ولكن افضل من المجازات الحلم والصبر والعفو. Mais il y a mieux que ça, le mieux que répondre, c'est le fait de patienter et de pardonner. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Comme Allah dit dans le Coran, et si vous patientez, c'est meilleur pour les patients. وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل. Et pardonne d'un beau pardon. وقال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Et dans le verset, Allah dit pour les croyants qu'il pardonne et qu'il passe l'éponge entre guillemets, c'est-à-dire yafou, il laisse passer. Donc qu'il laisse passer et qu'il pardonne, n'aiment-ils pas qu'Allah leur pardonne? Donc c'est-à-dire ici, comme tu aimes que Allah te pardonne, toi-même pardonne à ceux qui te font du mal. وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et dans un autre verset, et ceux qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. دل الحديث على أن إثم السباب يقع على الذي بدأ بالسباب إما مباشرة أو تسبب له بأفعاله أو أحواله. Donc le hadith nous montre que le péché de l'insulte revient à celui qui a commencé. Soit il a commencé directement, ou soit il a causé l'insulte par ses actes et par ce qu'il est en train de faire. ولا يقع على المجازي إلا إذا زاد على حقه فيصير ظالما. Et le péché ne retombe sur celui qui a été insulté que s'il dépasse dans sa réponse. Et là, il devient lui-même zalim. Lui-même, il devient injuste. As-sibabu laysa min khuluqi dhawi al-hay'ati wal-muru'at, wa innama huwa khuluqu as-sufaha. Et Cheikh dit pour finir, le fait d'insulter, ça ne fait pas partie du comportement des gens dignes et des gens bien éduqués. Mais ça fait partie du comportement des idiots. Wa man laysa ladayhim haya'un yarudduhum an hajri al-kalami wa fahishihi wal-bada'a. Et ça fait partie du comportement de ceux qui n'ont pas de pudeur, qui les empêchent de dire des paroles basses et vulgaires. لِذَا فَإِنَّهُ يُجْمِلُ بِالْمُسْلِمِ أَوْ يَجْمُلُ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ هَذِي الْأَخْلَاقِ وَأَنْ يَنْأَى عَمَّنْ لَيْسَ عِنْدَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ فَلْيَتَأَدَّبْ مَعَهُ بِآدَابِ الْقُرْآنِ مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ وَالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ. Et il dit donc qu'il convient aux musulmans de s'écarter de ce genre de comportement et de s'écarter de celui qui n'a pas un bon comportement et de le traiter avec les comportements que le Coran nous a indiqués, c'est-à-dire en se détournant des ignorants, quand le Coran nous a dit de nous détourner des ignorants. Al-jahilin, al-jahil en arabe, c'est pas que l'ignorance dans le sens de pas avoir de savoir. C'est-à-dire une personne qui a un comportement rude et un comportement bas, en arabe on peut l'appeler jahil, même s'il a du savoir. C'est-à-dire le jahil, c'est aussi en arabe le fait de mal se comporter, d'être rude, d'avoir un comportement bas. Donc là, les arad anil jahilin, c'est-à-dire le fait de se détourner des gens qui ont un mauvais comportement. Et le fait de pardonner, de patienter. Pour que, et quand il fera ça, la personne aura, inshallah, atteindra le degré de ceux qui adoptent les comportements du Coran. Le hadith suivant, وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضر مسلما ضره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. Donc il dit à propos du hadith, à propos de son authenticité, donc Tirmidhi a déclaré qu'il était Hassan. Après aussi, As-Suyuti l'a déclaré aussi Hassan. Après il dit aussi que ce hadith a plusieurs hadiths qui témoignent pour lui, notamment un hadith qui est dans Sahih Muslim qui dit « Oh Allah, celui qui a une responsabilité sur des gens de ma communauté et qui leur mène la vie difficile, rend lui la vie difficile. » Et on l'a vu hier. Donc ce hadith, il nous dit déjà, avant de passer, on va le traduire, « Celui qui nuit à un musulman, Allah lui nuira, et celui qui rend les choses difficiles à un musulman, donc c'est un petit peu dur à traduire, et qui mène la vie dure à un musulman, Allah lui fera la même chose. » Donc ça, c'est dans les Sunan, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc dans l'explication, Cheikh dit, « Rahimahullah, Adhiyatul muslimi wa ghayrihi bi ghayri haqqin haram. » سواء أكانت الأذية في بدنه أو عرضه أو ماله أو ولده أو أهله أو أي شيء يلحق الضرر به. Donc le fait de nuire à un musulman et à autre qu'un musulman sans droit est interdit. Que cette nuisance soit dans son corps, son honneur, son argent, ses enfants, sa famille ou quelque chose dans lequel il peut être touché par la nuisance. فمن أدخل الضرر على مسلم أو ذمي أو معاهد جازاه الله تعالى من جنس عمله بأن يدخل عليه المضرة والمشقة. Il dit, celui donc qui nuit à un musulman ou un dhimmi c'est les gens des autres religions qui vivent sous le pouvoir des musulmans, ou un mu'ahad, mu'ahad c'est le non-musulman qui a un pacte avec les musulmans, Allah le récompensera de la même façon de ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'un châtiment du même genre que ce qu'il a fait à la personne. C'est-à-dire, il va lui rentrer dans sa vie des malheurs et des nuisances.
جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث جعله علماء الأصول قاعدة شرعية عامة كبرى استقوا منها عددا كبيرا من المسائل الفرعية. Et dans le musnad de l'imam Ahmed, il y a un hadith qui dit il n'y a pas la darara wa la dirar. C'est-à-dire, c'est un hadith, je ne peux pas le traduire comme ça, qui interdit la nuisance. Et ce hadith, il est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi notamment, rahimahullah, et il dit les ulama en ont fait une grande base, une base dans la religion, et une base générale, ça veut dire elle englobe beaucoup de cas différents. Elle a beaucoup de branches qui en découlent.
ومعناه نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداء وجزاء.
Et la signification de ce hadith, la darar wa la dirar, c'est-à-dire, le prophète ici dit, il n'y a pas de nuisance, c'est-à-dire, la personne ne doit pas nuire à son frère en premier, wa la dirar, et elle ne lui rend pas non plus la nuisance. Donc il n'y a pas de nuisance en premier ni en réponse.
الحديث لا ضرر ولا ضرار وأخوه حديث الباب نص في تحريم الضرر بأنواعه كلها.
Donc ce hadith et le hadith du chapitre est un texte clair qui montre l'interdiction de toutes les genres de nuisances.
لأن النفي بلا للاستغراق فيفيد تحريم جميع أنواع الضرر لأنه الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما.
Et donc cette nuisance, c'est elle-même l'injustice qu'Allah s'est interdite à lui-même et qu'il a rendue interdite entre ses serviteurs.
الضرر قد يكون بحق كإقامة الحدود والعقوبات والإكراه على استخلاص الحقوق المستحقة الواجبة.
Et il faut savoir que la nuisance peut être de bon droit, comme إقامة الحدود والعقوبات, c'est-à-dire comme le fait que le gouverneur applique les sentences et les peines légales à une personne. Donc c'est une nuisance, mais là c'est une nuisance qui est demandée, qui est légiférée. Ou alors le fait que le gouverneur contraigne une personne à accomplir les droits des gens, par exemple à dépenser pour les personnes pour qui il devrait normalement dans la religion dépenser et lui ne veut pas le faire. Donc, ou alors pour payer sa zakat, le gouverneur il peut le forcer. Donc c'est une nuisance, mais là c'est une nuisance qui est
permise dans la religion. Là, on peut faire une parenthèse. Donc, c'était dans un livre que, en fait, j'hésitais pour ce week-end, soit à vous faire à continuer mes cours habituels, ou soit à vous lire un livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Peut-être que ça sera dans une autre occasion, sur Al-Jihad, c'est-à-dire sur la guerre sainte en islam, entre guillemets. Et dedans, il ramène il y a un passage de ce livre qui nous explique quelque chose. Et il est bon de le répéter ici, parce qu'à chaque fois, ici, on voit le droit du musulman, le fait de ne pas nuire aux musulmans. Donc on pourrait s'imaginer que, nous qui vivons dans un pays non musulman, on peut leur faire ce qu'on veut. Parce qu'à chaque fois, ça parle du musulman, pas nuire aux musulmans, etc. Et le Cheikh, dans un chapitre de son livre, il pose la question, est-ce que le fait de tuer des non-musulmans fait partie du djihad? Le simple fait de les tuer, tout simplement, sans regarder le contexte, juste comme ça, tuer des musulmans, est-ce que ça rentre dans le djihad? Est-ce que c'est quelque chose qui est permis et demandé dans l'islam? Et Cheikh, il nous renvoie à l'histoire de Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa, et vous connaissez l'histoire dans le Coran, lorsque Moussa a tué une personne qui faisait partie du peuple de Pharaon. Et l'occasion de ce meurtre, quelle est-elle? C'est quand Moussa est passé devant deux personnes qui étaient en train de se battre. Et ces deux personnes, c'était un musulman du peuple de Moussa, donc des enfants d'Israël, et un Qopti, c'est-à-dire une personne de la religion de Pharaon, et un Égyptien originel, c'est-à-dire quelqu'un du peuple d'Égypte de l'époque, et du peuple de Pharaon, et de la religion de Pharaon. Et ils étaient en train de se battre. Et Moussa a défendu, en défendant son co-religionnaire, et pour repousser le mal du Qopti, il l'a frappé, mais comme Moussa avait une force un peu supérieure au reste des autres humains, il a tué ce bonhomme, d'un seul coup. Et qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Inna hadha min amali shaytan. Tout de suite Moussa a dit, ça c'est l'acte du diable. Donc il n'a pas dit ce que je viens de faire, mashallah, c'est le djihad, c'est une hasana, etc. Comment il a qualifié son acte? Il a dit, inna hadha min amali shaytan. Il a dit, ça c'est un acte du diable. Et quand Moussa a reçu la prophétie plus tard, et que Pharaon lui a reproché, tu as fait ce que tu as fait, c'est-à-dire tu as tué un innocent parmi notre peuple. Qu'est-ce que Moussa a dit? Parce que quelqu'un pourrait dire, oui mais ça c'est avant la prophétie. Il n'a pas répondu à Pharaon, oui mais ça c'est parce que sache que ça c'est permis. J'ai reçu un message qui me montre que c'est permis de tuer un non-musulman. Et Moussa a dit, inni fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin. Je l'ai fait à l'époque alors que j'étais parmi les égarés. Donc c'est-à-dire comment il a qualifié cet acte? Il a qualifié cet acte d'égarement. Pourtant, qui est-ce qu'il a tué? Il a tué un membre d'un peuple avec qui il n'avait pas de pacte, parce qu'au contraire, ils étaient en train de les esclavagiser, et qui était injuste envers les musulmans, les enfants d'Israël, qui étaient des musulmans, et puisqu'ils étaient déjà musulmans, puisque les fils d'Israël, ils descendent depuis Ishaq, et Moussa, il est venu après Ishaq. Donc ils étaient déjà sur l'islam, à l'époque de Moussa. Donc, c'est une personne qui était injuste envers un musulman, dans un pays de non-musulmans, qui est en train de faire, entre guillemets, la misère aux non-musulmans. Et pourtant, quand il l'a tué, il a dit que c'était l'acte du diable, et après il a qualifié son acte d'égarement. Et le Coran, il ne nous dit pas que ça a été abrogé pour nous, ou que Moussa s'est trompé, ou quoi que ce soit. Donc ce jugement, il reste valable. Donc le fait de tuer un non-musulman comme ça, par pur plaisir, ça rentre pas dans le djihad. Et c'est pas permis, et ça fait partie des actes du diable et de l'ignorance. Et de l'égarement, comme c'est cité dans l'histoire de Moussa. Ensuite, il dit Al-madarratul muharrama, hiya al-madarratul maqsouda. Amma ghayru al-maqsoudati fala tahrum. Qala shaykh al-islam Al-madarratu ma'naha al-qasd wal-irada, aw ala fi'alin fihi darar, mata qasad al-idrar, aw al-fi'al bil-idrar min ghayri haja, fahuwa mudar. Donc là, il cite un passage que je préfère pas m'aventurer ni dans la traduction ni dans l'explication. Celui qui veut le relire, il parle du fait que la nuisance, c'est quand on veut nuire à la personne. C'est-à-dire quand on nuit sans avoir eu l'intention de nuire, ça rentre pas dans la nuisance. Et après, il cite un hadith pour argumenter ça, mais personnellement, j'ai pas compris ce passage. Donc, celui qui veut revenir, il revient au hadith. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه.
Ici nous cite un hadith rapporté par Abu Darda où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah déteste la personne basse et vulgaire ». C'est dans les sunan de Tirmidhi. Et dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Le croyant n'est pas celui qui insulte, ni celui qui maudit, ni le vulgaire ».
Et il dit « Ad-dar qutni a c'est-à-dire a choisi l'opinion que ce hadith est mawquf ».
Qu'est-ce que ça veut dire mawquf? Normalement, la réponse, elle doit fuser, là.
Donc, c'est qui l'aurait dit, là?
Donc, là, d'accord, voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que, si c'est mawquf, ça veut dire que c'est la parole d'Ibn Mas'ud. C'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
En tout cas, ici, Cheikh, il dit, donc je vous le lis complètement, pour exceptionnellement, il dit, « Lakin ikhtala ikhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi wa rujjiha waqfuhu. »
Donc il dit les ulama ont divergé sur ce hadith, est-ce qu'il est du prophète ou du compagnon.
قال المؤلف أخرجه الترمذي وصححه وله شاهد من حديث ابن مسعود يرفعه ليس المؤمن إلى آخره وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ولكن رجح الدارقطني وقفه. قال الشيخ شعيب الأرمعوط في تعليقه على رياض الصالحين أخرجه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح وصححه ابن حبان الحاكم ووافقه الذهبي. قال العراقي أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن مسعود وروي موقوفا قال الدار قطني والموقوف أصح.
Donc là il ramène les paroles des savants sur ce hadith, notamment la parole de Dar al-Qutni, qui dit qu'en fait l'authentique c'est que c'est une parole du compagnon.
Mais Cheikh il dit وهو وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع حيث هو إخبار عن الله تعالى وهذا لا مدخل للرأي فيه.
Il dit même si ce hadith serait de la bouche du compagnon, il a le même statut qu'un hadith qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il parle d'Allah. C'est-à-dire Allah déteste telle chose. Et ça on ne peut pas le dire à partir de la raison.
Donc quand un compagnon il dit quelque chose sans dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais c'est une parole directement de lui, mais qui parle des choses du ghaib, donc ça a le jugement d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que forcément il le tient du prophète, parce qu'un compagnon n'est pas de sorte à parler sur les choses de l'invisible comme ça sans révélation.
الحديث فيه النهي الأكيد عن هذه الخصال القبيحة وأنها ليست من صفات المؤمن الكامل الذي يمنعه إيمانه من المنكرات وفاحش القول وبذيء الكلام وإنما هذه صفات وأخلاق ضعفاء الإيمان وسيء الأخلاق ممن لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولم تخالط بشاشتهم قلوبهم.
Ce hadith, donc, il nous interdit fortement ces caractéristiques, c'est-à-dire le fait d'être vulgaire, la bassesse dans les paroles, le fait d'insulter, le fait de maudire, et montre que ces caractéristiques ne sont pas celles d'un croyant complet, dont la foi l'empêche de pratiquer des choses blâmables, et des paroles vulgaires et basses. Mais plutôt, ça, c'est les caractéristiques des gens qui ont la foi faible, et qui ont des mauvais comportements, et qui n'ont pas encore goûté le goût de la foi. C'est-à-dire, ils ont la foi, mais pas la foi complète. Leur foi, elle est faible. Et qui n'ont pas encore goûté la douceur de la foi.
والله يبغض الفاحش في قوله ممن فاه بفاحش القول ممن فاه بفاحش القول من السب والشتم واللعن والقذف والكذب وجميع الألفاظ النابية المحرمة.
Et Allah déteste donc la parole qui est les gens qui sont mauvais et vulgaires dans leurs paroles, comme le fait d'insulter, le fait de maudire, le fait d'accuser, le fait de mentir, etc. Et toutes les genres de paroles interdites.
Alaykoum salam.
Al-Badi'u sahibu mantiqissu wa qabihi lafzi mimman yu'zi bihajrihi wa safahati mantiqihi fala yukhatibu nasa illa bil lafzi mustaqrah wala yunadihim illa bil alqabi mustaqbaha wala yushafihum illa bi khashanil kalam fahada makruhun yubghiduhu Allah ta'ala kama yubghiduhu خلقه في السماوات والأرض.
Donc Al-Badi, quand il dit Allah déteste la personne Al-Badi, il dit c'est celle qui a un mauvais langage, donc qui parle mal
et qui nuit par son langage. Et il ne parle aux gens qu'avec des mauvaises paroles, et il ne les appelle que par des surnoms mauvais, des mauvais surnoms, et il ne leur parle que par des paroles rudes et mauvaises. Il dit donc ça c'est détestable, et Allah déteste ce genre de personnes, et même la création d'Allah dans les cieux et la terre déteste ce genre de personnes. أما الطاعن فهو الذي يطعن الناس أما الطاعن فهو الذي يطعن الناس في أعراضهم وأنسابهم ويعيبهم في أقوالهم وأفعالهم. Et الطاعن que j'ai traduit tout à l'heure par celui qui insulte, il dit c'est celui qui parle, qui insulte les gens et qui les critique dans leur honneur ou dans leurs ascendances. Leurs ascendances, c'est-à-dire sa lignée, de qui il descend. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, notamment, ça rentre dedans ce qu'on fait, nous, maintenant, quand on va se moquer du frère parce qu'il est algérien, ou alors parce qu'il est marocain, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est turc, ou, etc. Et donc, ça rentre dedans, parce que, quelque part, tu te moques de son ascendance. Ou alors, il se moque d'eux et il les critique dans leurs paroles et dans leurs actes. وَيُوَجِّهُ إِلَيْهِمْ إِنْتِقَادَهُ الْمُرَّ الَّذِي لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّوْجِيهِ. Et toujours, il leur adresse des critiques amères et dans lesquelles il ne veut pas les conseiller. C'est juste pour critiquer. وَإِنَّمَا يَقْصُدُ بِهِ إِظْهَارِ الْعِيبِ وَالْفَضِيحَ. Simplement, il veut par ses paroles montrer les défauts de la personne et le dévoiler et lui faire la honte, comme on dit.
وَأَمَّا اللَّعَانِ فَهُوَ كَثِيرُ اللَّعْنِ وَالشَّتْمِ بِسَبَبٍ وَبِدُونِ سَبَبٍ.
Quant à la'an, c'est celui qui insulte beaucoup et qui maudit beaucoup, que ce soit avec une cause ou sans cause.
وَإِنَّمَا اللَّعْنُ وَالشَّتْمُ سَجِيَّةٌ قَبِيحَةٌ طُبِعَ عَلَى أَصْلِهَا وَنَمَتْ عِنْدَهُمْ وَزَادَتْ مِنْ إِهْمَالِهِ تَهْذِيبَ نَفْسِهِ وَتَزْكِيَتَهَا.
Il dit, le fait d'insulter et de maudire, c'est une nature qui est une mauvaise nature chez cette personne, qui était donc ancrée en elle et qui a progressé en elle parce que il a délaissé le fait de corriger son âme et le fait de purifier son âme. Donc cette caractéristique qui est le fait d'insulter, de maudire, elle a grandi en lui. Il dit de façon générale, ces comportements ne sont pas les comportements de ceux dont la foi a illuminé les cœurs, et que la piété a embelli, et que l'adoration a corrigé dans le comportement, et dont le zikr a rendu droit et a corrigé les langues. Il dit ça, c'est pas les caractéristiques de ces gens-là. Il dit mais simplement ça c'est les caractéristiques des gens bas et des désobéissants et des hypocrites.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
Ici le hadith dans Bukhari nous dit n'insultez pas les morts car ils sont partis pour ce qu'ils ont avancé. C'est-à-dire, ça y est, ils sont partis et ils ont retrouvé leur récompense. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari.
Al-Hadith yadullu ala tahrim sabb al-amwat wa'umumuhu yufidu annahu sawa'un akanu muslimin aw kuffaran.
Donc, ce hadith nous interdit d'insulter les morts et il est général et il nous montre qu'il s'est interdit à la fois pour les musulmans et les non-musulmans.
Wa hikmatu an-nahyi ja'at min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi baqiyati al-hadith. قد أفضوا إلى ما قدموا يعني أنهم وصلوا إلى ما قدموه من الأعمال سواء أكانت صالحة أو طالحة.
Et la sagesse dans cette interdiction, c'est ce que le prophète nous a dit tout de suite après quand il a dit ils sont partis pour ce qu'ils ont avancé, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé les actes qu'ils ont faits et les récompenses ou le châtiment, c'est-à-dire si les actes sont bons ou sont mauvais. Donc ça sert à rien de parler sur eux puisque ça y est, là ils sont devant leur récompense.
الأموات لا فائدة في سبهم والتفكه في أعراضهم وتعداد مساويهم وأعمالهم فإن ذلك قد يؤذي الحي من أقاربهم.
Il dit les morts, il n'y a aucun bénéfice à les insulter et à parler sur leur honneur et à répéter leurs défauts et leurs méfaits. Il dit ça, ça peut même nuire au vivant qui fait partie des proches de la personne.
قال ابن الأثير في أسد الغابة لما أسلم عكرمة بن أبي جهل صار الناس يقولون هذا ابن عدو الله أبي جهل فسأه ذلك فشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أباه فإن سب الميت يؤذي الحي.
Et Ibn al-Athir raconte dans un livre qui s'appelle Asad al-Ghaba. Asad al-Ghaba, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire le lion de la jungle ou le lion de la forêt. En fait, c'est un livre, ça s'appelle Asad al-Ghaba fi Ma'rifati al-Sahaba ou Asma al-Sahaba, je ne sais plus. C'est-à-dire, c'est un livre qui parle des Sahaba dans le sens de faire connaître les compagnons, c'est-à-dire par. Il te classe les compagnons, etc., avec leur nom et ce qui a été rapporté à leur sujet. Donc c'est un livre qui sert notamment dans le hadith, c'est-à-dire pour savoir ce rapporteur, est-ce que c'est un tabi'i ou est-ce que c'est un sahabi. Et donc tu vas savoir à partir de là, est-ce que le hadith est est-ce que le hadith est mursal ou mausul, c'est-à-dire si c'est un compagnon, donc le hadith est relié du compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que si c'est un tabi'i, c'est un hadith mursal. Un tabi'i qui dit le prophète a dit, et donc ça rentrera pour une majorité de ulama dans la catégorie des hadiths faibles et pas authentiques. Donc il dit dans ce livre, lorsque Ikrima, le fils de Abu Jahl, et Abu Jahl on sait qui c'est, donc le grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est converti, les gens disaient voilà le fils de l'ennemi d'Allah, et ça lui a causé du mal, et donc il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit n'insultez pas son père, car le fait d'insulter les morts nuit aux vivants.
يستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معابيهم فائدة ولم يقصد به التنقيص منهم واغتيابهم وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة وتحذير الناس وذلك مثل جرح رواة الحديث.
Il dit, il est accepté de cette interdiction le fait de parler en mal des morts et de citer leurs défauts et leurs méfaits si le fait de le faire peut avoir un bénéfice, sans qu'on veuille par là diminuer de la personne ou simplement critiquer la personne et mal parler d'elle. Mais on voudrait par là montrer la vérité et mettre en garde les gens. Donc là, on peut le faire. C'est une exception. Comme il dit, ce qui est le cas sur Jarh al-Rawat, c'est-à-dire la critique des rapporteurs du hadith. Et ça, il y a des livres de hadith qui sont remplis de ça, c'est-à-dire les imams du hadith. En tout, dans les premières générations de l'islam, ils se devaient de montrer la situation des rapporteurs du hadith, et donc même s'ils étaient morts, ils se devaient de dire est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est thiqa de confiance, est-ce que même c'est un menteur, etc. Ben là, c'est parce qu'il y a un but derrière. C'est pas pour le plaisir de critiquer, mais c'est pour un but, qui est d'authentifier les hadiths.
قال النووي رحمه الله اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها.
Et النووي رحمه الله dit, donc on a déjà lu sa parole ou quelque chose qui y ressemble, il a dit sache que la médisance est licite quand elle est pour un but licite et un but légiféré, et quand elle est pour un but auquel on ne peut arriver que par elle, c'est-à-dire que par la médisance.
منها جرح المجرحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب.
Il a cité parmi les cas le fait de critiquer les rapporteurs du hadith qui sont critiquables, ou alors les témoins. Et il dit, ça c'est permis selon le consensus des musulmans et c'est même obligatoire.
ومنها التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوهم.
Ou alors le fait de citer une personne pour le faire connaître, or cette personne n'est connue que par un certain surnom comme l'aveugle, le sourd, le boiteux, etc. Et ça existe dans des rapporteurs de hadith. L'autre, par exemple, un il s'appelle Al-A'raj, l'autre il s'appelle Al-Asam, l'autre il s'appelle Al-A'mesh. Donc ça sous-entend des défauts, mais c'est comme ça qu'ils s'appelaient. C'est pas leur prénom, c'est leur laqab, et ils étaient connus pour être appelés comme ça, et eux-mêmes l'acceptaient. Donc là, il n'y a pas de mal.
ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
Et il est interdit d'appliquer ce genre d'appellation pour critiquer et pour diminuer de la personne. Et si on peut le faire connaître par autre que ce genre de mot, alors on le fait. Et c'est préférable. مذهب أهل السنة والجماعة في أموات المسلمين أننا نرجو للمحسن أن يوفيه الله أجره ويرحمه ولا يعذبه ونخاف على المسيء بأن يؤخذ بذنوبه وإساءته ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. L'avis des gens de la Sunna et du consensus en ce qui concerne les morts parmi les musulmans, c'est que nous espérons pour le bienfaisant parmi eux qu'Allah lui donne sa récompense, qu'il lui fasse miséricorde et qu'il ne le châtie pas. Et nous craignons pour celui qui était mauvais parmi eux qu'il soit pris à cause de ses péchés et de ça et de ses mauvaises actions. Mais on témoigne pour personne et on atteste pour personne qu'il est au paradis ou en enfer. Simplement, on espère pour celui dont on voyait qu'il faisait des bonnes actes, des bonnes actions, et on craint pour celui qui en faisait des mauvaises. Mais en aucun cas on tranche en disant il est au paradis ou en enfer, sauf pour celui sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il était en enfer ou au paradis, comme c'est le cas des 10 compagnons qui ont été promis au paradis par exemple. وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ مَنْ ظَاهِرُهُ الْفِسْقِ فَلَا حَرَجَ بِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ. Et il est interdit de penser du mal d'un musulman qui est bon en apparence. C'est-à-dire, al-adala, c'est-à-dire, il est en apparence, il est pieux et de bon comportement. Contrairement à celui dont l'apparence est la désobéissance, alors il n'y a pas de mal à penser du mal de lui, puisque lui-même a extériorisé le mal. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain à 11h.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.